Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Barack Obama est en Europe, à Londres depuis jeudi, en Allemagne demain. Le président américain effectue sur notre continent son avant-dernière visite officielle. Il sera à Varsovie en juillet pour le sommet de l'OTAN et terminera son mandat à la fin de l'année. Ce président, qui en 2008 avait soulevé un espoir si démesuré qu'on lui avait décerné un prix Nobel de la paix alors qu'il n'avait encore rien fait, ce président n'a pratiquement jamais manifesté à l'égard de l'Europe l'intérêt ou la sollicitude que certains en attendaient. Par sa culture, son tempérament, par sa perception des priorités nationales, ce réaliste que l'on dit froid a voulu se tourner vers l'Asie, se détourner du Moyen-Orient et privilégier une vision moins atlantiste de la stratégie américaine. Obama et l'Europe, est-ce de notre côté l'histoire d'une passion déçue ? Et du côté de Washington, le reflet de nos propres défaillances. Le président américain entend-il maintenant peser sur une Union européenne en crise entre le Brexit d'un côté et le drame des réfugiés de l'autre, avec le renforcement prévu des moyens militaires de l'OTAN en Europe de l'Est? Quel héritage va-t-il laisser pour son successeur? Ce sont toutes ces questions que nous allons explorer grâce à vous, Enrico Letta, bonjour. Vous êtes le doyen de l'École des affaires internationales de Sciences Po à Paris et ancien Premier ministre d'Italie. Avec nous aussi à Paris, Thomas Gomard, qui dirige l'Institut français des relations internationales. Bonjour Thomas.
Bonjour.
De Washington par téléphone, et je l'en remercie vivement, Karine Donfried, qui est la présidente du très puissant German Marshall Fund of the United States, après avoir fait partie du National Security Council du président. Et Karine, vous étiez en charge des affaires européennes. Et au téléphone de Londres, Mark Leonard, qui dirige le European Council on Foreign Relations. Enrico Letta, je commence avec vous. Vous avez donc été président du Conseil italien, c'est-à-dire Premier ministre, en 2013-2014, plusieurs fois ministre, et donc vous avez vécu dans sa réalité la dimension transatlantique singulière et aussi entre l'Italie et les États-Unis. Diriez-vous que le président Obama a été le moins atlantiste des présidents contemporains ?
Le président Obama était un président qui a été très correct par rapport à l'Europe, à l'Union européenne, mais ça a été un président qui a été bouleversé par la crise de l'Europe. La plus grande crise que l'Europe ait jamais vécue, c'est lui qui a été le partenaire, et je l'ai vu toujours très correct et très attentif. Je l'ai vu chercher de pousser les Européens à trouver des solutions. Je l'ai vu mettre la chancelière allemande dans un coin et lui dire maintenant il faut trouver des solutions parce que sinon tout va se casser. Je l'ai vu être très très actif, mais il est clair que ça a été le plus asiatique des présidents américains. Donc peut-être je change un peu votre définition, Christine, et je dis c'est non pas le moins transatlantique, mais c'est surtout le plus asiatique.
Et là, avec le fameux pivot qu'il a donc annoncé premier mandat.
Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il se trompe, parce qu'on est dans le siècle de l'Asie. Et donc, c'est peut-être nous, les Européens, que nous devrions être un peu plus penché vers la dimension orientale asiatique, parce que le monde est en train de pousser de ce côté-là. Les dimensions démographiques sont incroyables, les dimensions économiques aussi, et naturellement la politique étrangère doit tenir compte de tout ça. Donc moi je l'ai vu comme ça, je l'ai vu aussi être celui qui a tout de suite compris que le G8 était terminé et qu'il fallait retourner au G7.
C'est-à-dire sans la Russie de Vladimir Poutine.
Et en réfléchissant sur le fait qu'un lieu où les Occidentaux, si on peut encore employer ce terme, les Occidentaux se voient entre eux sans autres interlocuteurs est un lieu essentiel parce que dans un monde global où les grands pays asiatiques vont jouer un grand rôle, avoir un lieu où les Européens et les Américains et le Japon naturellement se rencontrent pour concerter des positions communes est un lieu essentiel. Le G8 avec la Russie n'était plus ça et c'est Obama qui a tout de suite géré le passage au G7 de 2013 à 2014. Je pense que ça a été un choix intelligent.
Karen Donfried, je rappelle que vous dirigez le German Marshall Fund des États-Unis. Il faut rappeler que cette institution, qui est très puissante, assez méconnue en France, est financée par l'Allemagne en reconnaissance, en fait, du plan Marshall au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à la fois un think tank et une organisation qui se préoccupe de promouvoir les relations transatlantiques. Vous dirigez cet institut depuis 2 ans maintenant, après avoir fait partie de l'équipe du président. Vous étiez en charge de l'Europe. Est-ce qu'il était très compliqué à l'époque d'intéresser Barack Obama à ce qui se passait en Europe?
President Obama sees our European
considère les alliés européens comme une source de stabilité et un monde perpétuellement instable.
Et pour le président Obama,
les partenaires européens restent quelque chose de fondamental. Donc quand il regarde le monde, les premières personnes vers qui il regarde pour le rejoindre, pour rendre le monde un lieu meilleur, eh bien ce sont les Européens. En apportant la stabilité ou en reconstruisant l'Afghanistan, que ce soit à arrêter l'agression russe en Ukraine, que ce soit aussi dans la tentative d'empêcher l'Iran de développer des capacités nucléaires, je crois que la position d'Obama n'a pas été comprise par les alliés européens. Ce n'était pas un pivot qui détournait l'attention américaine de l'Europe. C'était un pivot qui détournait la poussée en avant vers les guerres terrestres, celles d'Afghanistan, entre autres. Et c'était dans votre intérêt que le président Obama a reconcentré une partie de la diplomatie américaine vers l'Asie et en particulier vers la Chine.
On comprend aussi que, vu de Washington, l'absence de cohésion de l'Union européenne sur certains enjeux, l'incapacité à coordonner des actions en période de crise, qu'elles soient financières ou qu'elles soient diplomatiques, quelles ont été les pires déceptions européennes pour le président Obama?
C'est intéressant parce que lorsque le président Obama est arrivé au pouvoir, je pense que les alliés européens voyaient tout d'abord comme quelqu'un qui pourrait résoudre les crises au-delà de l'Europe. Et ce que l'on a vu au cours de l'année écoulée, c'est la confluence des crises qui assaillent l'Europe. Que ce soit la crise de l'eurozone, que ce soit la crise des réfugiés et des migrants, que ce soit une possible sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est une instabilité qui se précise sur le front européen. Et l'agression russe en Ukraine a rendu très clair que ces accords d'après la guerre froide selon laquelle la Russie devait coopérer avec nous, car c'était plus dans son intérêt que d'en commencer des conflits ouverts, et bien c'était quelque chose qui était passé. Cette situation a beaucoup changé au cours de ces années de la présidence Obama.
Thomas Gomard, je rappelle que vous dirigez l'Institut français des relations internationales. Est-ce que vous estimez, vous, que les Européens voient cette fin de mandat aux États-Unis avec un fort coefficient de déception?
Je pense qu'il y a une déception effectivement qui est très largement répandue concernant le président Obama et qui, à titre personnel, me surprend. À mes yeux, ce qu'il caractérise, il y a peut-être deux choses. C'est que c'est un président qui a surpris parce que c'est un président qui pense par lui-même. Il a eu cette fameuse formule « je n'ai pas besoin d'un George Kennan » et qui illustre assez bien, je dirais...
George Kennan, qui était le grand théoricien de la guerre froide.
Absolument, qui dirigeait le Policy Planning Staff. Et je pense que ça illustre bien le caractère très cérébral de ce président.
Il a aussi dit un jour « don't do stupid things ». Ne faites pas de bêtises, en gros, quand il s'agit.
Ce qui vaut un programme, effectivement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il a aussi peut-être déstabilisé les Européens parce que c'est un président qui a fait ce qu'il avait annoncé en politique étrangère. Et ça, effectivement, c'est, pour des dirigeants européens, c'est quelque chose d'inhabituel, en quelque sorte. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'il a été élu pour se retirer du Moyen-Orient. Et d'Afghanistan, ce qu'il a fait. Il a été élu parce qu'il considérait que l'interventionnisme des années Bush était fondamentalement déstabilisateur pour le système international. Et donc, il a eu une approche beaucoup plus prudente, au fond, de l'usage de la force, beaucoup plus modérée. Et je pense que quand on observe ce qui se passe au Moyen-Orient ou ce qui s'est passé en Europe avec l'annexion de la Crimée et la déstabilisation de l'Est ukrainien, d'une certaine manière, ce sont aussi les conséquences d'un retrait américain. Et je pense que ça participe au fond de la lecture que l'on doit avoir de l'action du président Obama. Pour finir, c'est vrai qu'il a un tropisme asiatique parfaitement assumé, qui s'explique par son histoire personnelle et qui s'explique aussi, comme on l'a déjà exprimé, par sa vision du monde, c'est-à-dire un déplacement du centre de gravité vers l'Asie-Pacifique qui marginalise un petit peu l'Europe.
Si on reste sur le Moyen-Orient un moment, on voit qu'il s'est rendu là, il y a deux jours, en Arabie Saoudite. Les relations sont devenues difficiles avec Riyad, après avoir été historiquement depuis... 45, extrêmement étroite, la sécurité de l'Arabie Saoudite contre le pétrole. Il est maintenant à Londres. Il donne un peu l'impression d'aller en fait dans ces trois zones, donc Riyad, Londres, demain l'Allemagne, qui sont en fait les plus éruptives en ce qui concerne les relations avec les États-Unis.
Oui, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est quand même un président qui a redonné des marges de manœuvre à la politique étrangère américaine, d'une certaine manière. Parce que vous mentionnez l'Arabie Saoudite, une des grandes transformations de la politique américaine sous le double mandat de Barack Obama, c'est précisément la relation avec l'Arabie Saoudite. Je pense que les États-Unis n'ont pas pardonné le 11 septembre. Bon, et que, au fond, l'autonomie énergétique que la révolution des gaz et des pétroles de schiste leur a donnée a permis de desserrer ce lien très étroit qui les nouait à l'Arabie Saoudite. La même chose peut être dite dans les relations avec Israël, c'est-à-dire que Obama aussi a desserré une forme de lien très étroit. Il a une relation très très compliquée, très tendue avec Netanyahou. Et je pense que ces deux pays montrent à quel point il a réussi d'une certaine manière à disposer de marges de manœuvre plus larges. Alors concernant maintenant l'Europe, je ne sais pas si ce sont les deux zones les plus éruptives. Il y a la question du Brexit sur laquelle on va revenir. Est-ce que son intervention dans le débat sera bienvenue? Ça, c'est probablement une question pour Marc Leonard. Et concernant l'Allemagne, je pense qu'effectivement, ça rappelle aussi à quel point, au fond, on a une relation transatlantique qui s'est beaucoup construite sous Barack Obama en termes commerciaux, dans une relation très étroite entre Berlin et Washington, minorant l'influence de capitales comme Londres, Paris ou Rome. En réalité, au fond, on a une relation transatlantique qui passe par cette relation commerciale et qui en même temps a des incidences en termes de sécurité dans la relation avec au sein de l'OTAN, relation dans laquelle l'Allemagne a un positionnement très spécifique.
Et que l'histoire explique, bien sûr. Marc Leonard, bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone de Londres. Je rappelle que vous dirigez le Conseil européen des relations internationales. Le président Obama, ce samedi matin, doit mener une discussion avec des jeunes. Il a déjeuné avec la reine qui a célébré ses 90 ans, donc ça c'était la partie sentimentale dans cette relation spécifique entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Comment est-ce que le soutien affiché à un Premier ministre britannique, un peu affaibli quand même par l'affaire des Panama Papers et en plein débat sur le référendum européen. En quoi est-ce que la visite du président Obama est un soutien ou au contraire peut-elle s'avérer contre-productive?
Je pense que c'est un grand soutien. C'est peut-être une réflexion sur le sentiment des Britanniques envers les hommes, surtout les hommes politiques britanniques, que les Britanniques ont l'air d'avoir plus de confiance dans un président étranger que dans leur propre premier ministre et les ministres dans le gouvernement britannique. Mais dans les sondages, on voit que Obama a 76% de la population britannique qui sont favorables envers lui. Et c'est beaucoup plus que tous les dirigeants et bien de la campagne pour rester au sein de l'Union européenne et de la campagne de Brexit. Et dans un moment où la population a très peu de confiance dans la classe politique, tout le monde cherche des sources de confiance dans l'international. Et Obama est presque unique dans le monde dans le monde britannique, que presque tout le monde a une perspective très positive sur lui, et il est beaucoup plus populaire ici à Londres que aux États-Unis.
Oui, où sa cote de popularité, quoi qu'on en pense, reste quand même stabilisée autour de 50%, ce qui fait rêver dans certains pays d'Europe. Mais justement, imaginons, nous autres en France, imaginons que le président américain vienne rendre visite à Paris en pleine campagne sur un référendum européen, mais ce serait des vociférations. On dirait, mais que vient-il faire? De quoi se mêle-t-il? Etc. Et là, vous nous expliquez au contraire que c'est perçu par les partisans des deux bords, si j'ose dire, comme une bonne chose.
Pas des deux bords. Ceux qui veulent rester dans l'Union européenne sont très positifs parce qu'il a une crédibilité ici. Et aussi parce que quand on demande à la campagne du Brexit quelles sont l'alternative à l'Union européenne, dans le passé, dans les années 70, on disait que c'était le Commonwealth. Dans les années 80-90, on disait que c'était de devenir le 51e État des États-Unis. Plus récemment, on parle du commerce avec la Chine et avec d'autres pouvoirs. Et on a déjà entendu du Commonwealth que eux, ils veulent tous que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Le premier ministre indien, l'Australien, le Canadien ont tous dit ça très clairement. Les Chinois ont dit la même chose. Et maintenant, on entend que Obama a préféré qu'on reste ici et que c'est tellement important qu'il veut même venir à Londres et le dire en direct comme ami aux citoyens britanniques. Et il a très clairement parlé comme ami. Il a dit que c'est dans l'intérêt des États-Unis d'avoir un ami comme le Royaume-Uni dans l'Union européenne, et qu'il a peur que si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, ça sera le début d'une désintégration de l'Occident, parce que l'Union européenne est lié avec l'OTAN et aussi est un des piliers d'un ordre mondial que l'Occident a développé dans le passé. C'est intéressant que c'est Obama, ce président très avec ce tropisme asiatique qu'on a entendu au début, maintenant vient à Londres pour essayer de sauver l'Occident.
Une dernière question, Marc. À lire les analyses, et notamment celles que votre propre institut de recherche publie, on voit qu'en fait, le débat britannico-britannique se tend entre un camp qui veut sortir et qui utilise des arguments plutôt sentimentaux, et le camp de ceux qui veulent rester et qui s'efforce d'avoir des arguments rationnels. Et là, on a l'impression, à vous entendre, qu'en fait, c'est Barack Obama qui apporte au débat cette dimension presque affective qui conforte les partisans qui veulent rester.
Oui, je pense que c'est quelque chose qui, juste à présent, était plus ou moins absent dans la campagne pour rester dans le Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Et ça sera quand même quelque chose qui va compter, parce que même si Project Fear, le projet de faire peur à la population britannique avec tous les risques qu'on prend si on quitte l'Union européenne, va être très fort et peser sur les Britanniques quand ils vont voter. Il faut quand même aussi avoir des raisons positives pour lesquelles on a peur de quitter l'Union européenne. Et c'est ironique que ça vienne le mieux d'un Américain plutôt que d'autres Européens, mais c'est vrai que quand Obama parle dans ces termes historiques et sur la géopolitique du 21e siècle, ça influence quand même beaucoup le débat britannique.
Enrico Letta, je rappelle que vous êtes le doyen de l'École des affaires internationales de Sciences Po à Paris, ancien Premier ministre d'Italie. Vous êtes un Européen convaincu, vous avez agi dans ce sens quand vous étiez aux affaires, comme on dit. Sur ce débat du Brexit, est-ce que ce soutien américain à David Cameron entretient aussi l'idée que subsiste quand même cette relation particulière entre le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique?
La relation particulière est une réalité. La Grande-Bretagne, je pense, est le seul pays européen qui voudrait changer sa géographie. Il voudrait se déplacer un peu plus au milieu de l'Atlantique.
Sauf l'Écosse.
Oui, sauf l'Écosse, mais l'Écosse est assez petite pour peser, mais et se distancier le plus que possible, rendre la Manche une espèce de grand océan, une espèce de grand océan. Heureusement, ce n'est pas possible. Et je dis même plus, je pense que le référendum du Brexit, à la fin, peut être une grande occasion, même pour nous en tant qu'Européens. Parce que l'Europe est en dire straits, l'Europe est en très mauvaise forme, et on ne peut pas continuer avec une continuité comme si on pouvait,
continuer à raccommoder les morceaux.
Non, c'est impossible. On peut pas faire l'Europe contre les Européens. Aujourd'hui, les Européens sont contre l'Europe. On ne peut imaginer aucun changement de traité. Parce qu'on peut faire aucun référendum. Tous les référendums vont être perdus.
On a vu ce qui s'est passé aux Pays-Bas, il y avait un taux d'abstention énorme, c'était sur les liens commerciaux avec l'Ukraine. Mais il y a eu une majorité négative.
Donc il faut partir de là. On ne peut pas imaginer qu'on continue à faire l'Europe sans lier à nouveau la relation avec les Européens. Et donc là, il faut le faire, de mon point de vue, avec une rupture nette, en entrant dans une Europe 2.0, peut-être, donc un changement de page dans lequel il faut un moment de rupture. Je pense que le Brexit, j'espère qu'il reste, et j'espère que ce référendum peut être un moment de rupture, c'est-à-dire il peut dire le UK reste, mais il reste... Ils ne veulent pas faire plus de pas en avant en termes d'intégration. Donc, c'est les pays de l'euro qui se regardent dans les yeux et disent « On entre dans un nouvel élan de l'histoire européenne dans laquelle on parle de l'Europe nécessaire. Ce qu'il faut faire pour protéger nos citoyens sur la sécurité, sur la gestion des migrations, sur la lutte au chômage, donc sur des questions très concrètes. » Sur lesquels donc on entre dans un différent récit même de l'idée européenne.
Et un récit plus proche des préoccupations des citoyens.
Je pense que c'est absolument inévitable, c'est le grand défi des prochaines années, mais il faut du leadership européen, et je pense que là il y a un grand rôle pour la France à jouer.
Mais c'est aussi dans les arguments développés par Barack Obama à Londres, ce sont ces arguments-là aussi, Mark Leonard le rappelait, qu'il évoque pour encourager les Britanniques à rester dans l'Europe. Et pourtant, on a vu dans des entretiens récents que le président américain a accordé à quelques organes de la presse américaine, à quel point il a critiqué en particulier David Cameron, dont il est proche, sur l'intervention en Libye. en particulier?
Bah là, franchement, je ne peux que le rejoindre.
David Cameron et Nicolas Sarkozy, là, ils ont été, décrits et en quelque sorte accusés d'avoir mené cette aventure libyenne
Je ne peux que le rejoindre, c'est-à-dire, naturellement, ce n'était pas ça la volonté. La volonté était celle de résoudre un problème et d'éviter une nouvelle Srebrenica à Benghazi. Donc, c'était une volonté positive. Mais à la fin de tout ça, l'aventure libyenne est une aventure qui a laissé le pays dans le désastre.
Chaos,
et
ouais.
On n'a pas pensé quel était le pas après. Et donc, on a vécu les quatre années qu'on a derrière nous, dans lesquelles la Libye a été le grand trou noir de l'Afrique du Nord, et ça a déstabilisé la Méditerranée, ça a donc créé une des raisons pour lesquelles le chaos des migrants n'a pas pu être géré. Et aujourd'hui, on est là, on espère que le nouveau gouvernement libyen puisse être un point de référence. Mais là, par exemple, moi, je suis témoin personnel d'un engagement super du président Obama sur le sujet libyen. Il a été toujours sur ce sujet dans un mode de intervention, aide, soutien, et très intelligemment. Le point essentiel était celui de rendre possible qu'un État devienne réel, concret en Libye, avec donc l'emploi de la force. Moi, je l'ai entendu faire un discours, une espèce de leçon au Premier ministre Zeidan de 2013-2014, Obama, en lui expliquant le Léviathan, en lui expliquant, écoute, là, l'État, c'est l'emploi exclusif de la force. Si tu n'es pas en condition de faire ça, on t'aide à le faire, mais c'est là que l'État se renforce. Sinon, si c'est la force est dans les mains des tribus et l'État ne compte rien, alors c'est fini. Et
mais c'est exactement ce qui s'est passé.
Il avait raison.
Il faut bien dire. Il faut aussi évidemment rappeler que pour des raisons à la fois géographiques et historiques, la Libye est un enjeu majeur pour l'Italie. Éric Scholl, bonjour. Vous dirigez Courrier International, notre partenaire depuis les tout débuts de cette émission, et vous avez évidemment retrouvé dans la presse américaine les entretiens accordés par le président, presque un testament 6 mois avant de quitter le bureau ovale, un testament en particulier à ce magazine qui s'appelle The Atlantic, et aussi quelques commentaires assez critiques de la presse américaine sur sa politique vis-à-vis de l'Europe, Eric.
Oui, Barack Obama n'a pas retenu ses critiques à l'égard des alliés des États-Unis. D'abord, il y a eu cet entretien dans la revue américaine The Atlantic, une sorte de testament de politique étrangère paru le mois dernier dans lequel, il faut bien l'avouer, l'Europe occupe souvent le mauvais rôle. La guerre en Libye, Barack Obama regrette de s'y être laissé entraîner. Il explique qu'il a été poussé par des gens qui, je cite, ne sont pas prêts à mettre les moindres billes dans le jeu. Un tacle pour les responsables européens de l'époque, à savoir Nicolas Sarkozy et David Cameron, accusés d'être, selon le mot de Barack Obama, des free riders, c'est-à-dire des profiteurs. Et puis, rebelote de la part du président américain, avec cet entretien accordé cette fois il y a quelques jours à la chaîne américaine Fox News, et Barack Obama explique que sa plus grosse erreur en politique étrangère, ça a été probablement le manque de suivi de l'intervention militaire en Libye. En creux, il vise de nouveau les Européens, des critiques trop faciles, estime la presse étrangère, qui s'empresse de corriger ce bilan peu flatteur pour l'Europe. Alors, par exemple, la revue Vie Atlantique vient de publier un article, signé cette fois par un diplomate français, et intitulé « Les pays européens sont-ils des profiteurs ?» Point par point, l'auteur répond aux attaques de Barack Obama. Et il s'interroge, est-ce que c'était vraiment le moment de lancer cette campagne anti-free riders quand les deux côtés de l'Atlantique sont confrontés à des défis communs très lourds que sont le terrorisme international ou la montée du populisme.
Il est d'ailleurs assez curieux qu'un diplomate français réponde au président des États-Unis. Mais j'ai compris que c'était un jeune diplomate qui est en poste dans un think tank à Washington. Et vous avez aussi trouvé, Eric, alors dans le Wall Street Journal et sous la plume d'un vétéran du journalisme américain en Europe, John Vinokur, un jugement sévère.
Oui, John Vinokur a pris la température auprès des dirigeants européens et ceux-ci ne cachent plus leur agacement et même leur critique à l'égard du chef de la Maison-Blanche. Il y a un profond doute au cœur de l'Europe à l'égard d'un président qui n'a pas tenu sa parole et qui a échoué à attaquer la Syrie, raconte John Vinokur. Un doute qui, selon le journaliste, a entamé la crédibilité américaine en tant qu'ultime recours de l'Occident pour porter la justice via une intervention militaire. En résumé, selon le Wall Street Journal, les États-Unis sous Obama ne sont plus les gardiens de confiance contre le chaos. Le charme est bel et bien rompu. John Vinokur relève d'ailleurs une nouvelle franchise dans le langage des responsables européens qui, bien sûr, ont lu l'entretien de Via Atlantique intitulé « La doctrine Obama ». Et cette doctrine passe très mal en Europe.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Retournons à Washington pour vous retrouver, Karen Dunfried. Je rappelle que vous dirigez le German Marshall Fund aux États-Unis. Barack Obama sera demain en Allemagne. Il va commencer par inaugurer la foire de Hanovre. Est-ce que c'est une façon pour lui d'apporter son soutien à la chancelière Merkel en pleine tourmente liée, bien sûr, à la crise des réfugiés?
So my sense is that when the White House planned this stop,
they were looking at it through the prism of the economic relationship. C'était surtout pour renforcer les relations économiques, parce qu'il sera évidemment à Hanovre pour la grande foire, qui est la plus grande foire technologique au monde. Et ça présentait une excellente occasion pour articuler le soutien du président Obama pour le traité transatlantique et les partenariats en matière d'investissement. Dans les mois qui ont suivi, la crise des migrants et des réfugiés sont devenus la priorité dans la politique allemande. Donc ce sera ça le contexte de sa visite à Hanovre demain. Il a été très clair, le président Obama, dans son soutien au chancelier Merkel, à sa politique d'accueil. Il l'a dit à plusieurs reprises qu'il admirait son courage en tentant de trouver des façons de pouvoir intégrer et d'accueillir les réfugiés. Bien sûr, l'Allemagne a accueilli 1 100 000 réfugiés l'année dernière. Donc je pense que, bien qu'il soit en soutien de sa politique, il essaiera de voir quelle aide pourra apporter les États-Unis, pas seulement à l'Allemagne, mais à toute la zone euro, pour gérer cette situation. Je voudrais aussi souligner que le président Obama va prononcer un discours dimanche. Et c'est intéressant parce que d'une certaine manière, ce discours de lundi, plutôt, va être le pendant du discours qu'il a donné à Berlin lorsqu'il était candidat à la présidence. 200 000 Allemands étaient venus pour écouter un candidat à la présidence des États-Unis. Et il sera intéressant de voir quel sera son message au sujet des relations transatlantiques au cours de sa dernière année de présidence.
Karen, votre institut vient de publier un papier très intéressant, signé par Hans Kundnani, sur la détérioration des relations entre l'Allemagne et les États-Unis, en tout cas depuis l'affaire des écoutes de la NSA.
C'est fascinant de voir comment l'opinion publique allemande a changé au cours du mandat du président Obama. Lorsqu'il a remporté la présidence, il était incroyablement populaire en Allemagne. Cette popularité a commencé à s'effondrer parce qu'il n'a pas fermé Guantanamo, en raison de l'utilisation des drones, les révélations de Snowden. Il y a eu toute une suite d'événements qui ont affecté négativement l'opinion publique allemande vis-à-vis du président américain. Et il n'y a aucun doute sur le fait que le problème de la NSA a eu un énorme impact, un énorme effet sur l'attitude américaine. Le président Obama, en dépit de tout ça, a gardé une relation de travail extrêmement étroite avec la chancelière. Un exemple pourrait être leur coopération sur l'opposition à l'attaque, l'agression russe contre la Crimée. Et l'agression continue contre l'Ukraine orientale. Ils sont en train de forger une politique transatlantique en termes de sanctions contre la Russie. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'opinion publique allemande commence à s'améliorer vis-à-vis des États-Unis. Donc c'est véritablement des montagnes russes quand vous regardez ce qu'était l'opinion publique allemande au sujet du président Obama. Je dirais que la relation de travail entre le président Obama et la chancelière a été très forte de façon continue.
Enrico Letta, si on en vient aux relations entre le président Obama, Paris, Rome, à l'exception de Berlin, on a quand même le sentiment que c'est l'affaire syrienne, en tout cas du point de vue français, qui a été le moment, disons, de la déception la plus aiguë. L'été 2013, quand le président Obama parle de la ligne rouge à ne pas franchir, on découvre que Bachar al-Assad utilise des armes chimiques contre son peuple. Et à ce moment-là, le président Obama, tel que c'est perçu à Paris, fait marche arrière. En fait, il décide de ne pas intervenir davantage.
Je pense que ça a été un choix, en regardant les choses d'après, ça a été le bon choix, celui du président Obama. Aujourd'hui, on a Daesh, et ce que serait été Daesh dans une situation différente. Mais là, 2013, c'était les jours du G20 de Saint-Pétersbourg. C'est aussi un autre événement qui a joué beaucoup, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Londres. Et là, ça a démontré que Obama, c'est quelqu'un qui travaille avec des alliés et d'une façon très étroite avec ses alliés.
Rappelez-nous ce qui s'est passé à Londres.
Et à Londres, il y a eu le Parlement britannique qui, pour la première fois dans son histoire, a donné une gifle terrible au gouvernement en charge que le Parlement soutenait et que normalement le Parlement soutient quand il y a une politique étrangère ou une guerre à mener. Et le Parlement a dit non à Cameron et à son gouvernement sur l'intervention. Et là, ça a été quelque chose qui a complètement changé. Premièrement, la politique étrangère britannique qui, dès 2013, a complètement changé. Et ça, c'est un peu un des héritages de la période Blair-Bush, c'est-à-dire l'Irak avec tout ce qui s'est passé. Et donc, Obama est arrivé au G20 et il avait seulement la France à ses côtés. Et l'Allemagne n'en voulait pas de guerre. La Grande-Bretagne avait pris une décision et c'est pour ça que la situation que Obama s'est trouvée, c'était une situation qui n'était pas très loin d'être celle que Bush avait trouvée quand la guerre en Irak avait été déclenchée, c'est-à-dire la division de l'Europe. Et il a voulu éviter ça. C'est pour ça que, à la fin, mon jugement est un jugement de quelqu'un qui a voulu vraiment changer de politique par rapport à Bush. Il a réussi à le faire. Naturellement, il y a des conséquences dans tout ça. Mais à la fin, les conséquences d'une autre politique auraient été beaucoup pires.
Karen Donfried, vous avez fait allusion à la crise ukrainienne. Le président Obama avait prévu ce qu'on appelait un reset avec Vladimir Poutine. Ce reset n'a pas eu lieu. Au contraire, dans l'interview qu'il a accordée à The Atlantic, auquel Eric Scholl faisait allusion, le président Obama affirme qu'il ne croit pas que la Russie a retrouvé véritablement un rôle majeur. Jusqu'à quel point est-ce que sa décision de renforcer les moyens militaires de l'OTAN, et ce sera concrétisé lors du sommet de l'OTAN à Varsovie en juillet, jusqu'à quel point cette décision-là prouve que le président Obama se rend compte de la fragilité de l'Europe vis-à-vis de la politique de Vladimir Poutine?
Je pense que le soutien américain en soutien de l'initiative européenne qui sera consolidée à Varsovie au début du mois de juillet sera le reflet de l'agression russe à l'est du continent. Il y a une conviction très profonde de l'administration américaine qu'il faut prouver la solidarité avec les alliés européens. Vous l'avez vu dans les premiers mois de
2014.
Les États-Unis ont été parmi les premiers alliés à agir en soutien des alliés de l'OTAN sur la frontière orientale. Et l'on voit que ce soutien s'est accru au cours des deux années écoulées. La stratégie de contrer ce que faisait la Russie en Ukraine a eu deux parties notables. Une, c'était la relation avec la Russie, la punition des Russes par des sanctions en disant que ce n'était pas acceptable. Et il n'est pas acceptable au XXIe siècle qu'une nation utilise la force pour changer les frontières d'une nation peut-être plus faible, mais souveraine. Et une autre partie de la politique était de rendre très clair aux alliés de l'OTAN que les États-Unis s'engageait à la défense des alliés européens.
Est-ce que cela veut dire pour autant que le président Obama ne considère plus que l'Ukraine ou au-delà de l'Ukraine, les pays baltes par exemple, qui sont membres de l'OTAN, membres de l'Union européenne, que ces pays-là restent au cœur des intérêts américains?
L'Ukraine est dans une situation complètement différente de celle des États baltes, parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Et vous avez fait référence à l'interview de Jeff Goldberg avec le président Obama, qui est apparu dans un très long article de la revue The Atlantic sur la doctrine Obama, telle qu'il l'avait appelée. Et dans cet article, Jeff Goldberg cite Obama en disant que l'Ukraine est un intérêt au cœur de la Russie, mais pas un intérêt américain. Donc, tel que Obama le voit, la Russie a une domination sur cette région. Et c'est la raison pour laquelle le président Obama n'a jamais considéré qu'il y avait une solution militaire à la crise ukrainienne. Mais c'est très différent du fait que le président Obama veut être absolument clair sur le fait que l'article 5 de l'OTAN s'applique aux États baltes tout autant qu'il s'applique à la France ou à l'Allemagne.
Thomas Gomard, la dimension militaire au niveau de l'Alliance Atlantique, la dimension économique au niveau des grands traités, aussi bien avec l'Asie qu'avec l'Europe, que le président Obama espère faire passer au Congrès, est-ce que ce sont véritablement les deux testaments principaux qu'il laissera en quittant la Maison-Blanche dans quelques mois?
C'est trop tôt pour le dire en ce qui concerne le TTP, parce qu'il a été, il fait l'objet d'une discussion dans le cadre de la campagne actuelle. Hillary Clinton ayant eu des déclarations assez critiques et assez inattendues. Quant au TTIP.
Mais poussé évidemment dans ce sens par la concurrence de Bernie Sanders, qui lui s'est déclaré, comme Trump d'ailleurs, avec des arguments étrangement parallèles, totalement hostile au libre-échange.
Oui, et parallèlement, le TTIP, il y a une volonté américaine d'accélérer les négociations pour essayer d'aboutir avant la fin 2016, mais avec en même temps un effet politique en Europe difficile à prévoir. Très certainement, ce seront les deux principaux héritages du président Obama, parce que c'est la combinaison au fond d'un projet géoéconomique et d'un projet géopolitique. En ce qui concerne l'OTAN, je pense que là, et pour peut-être revenir sur les séquences que nous avons évoquées, 2011, la Libye, 2013, la Syrie, l'héritage est beaucoup plus difficile à analyser. Je rappellerai que en 2013, l'OTAN fait des manœuvres en Pologne avec une participation ukrainienne. C'est les exercices de Steadfast Jazz 2013. Les Américains envoient 160 hommes, les Allemands en envoient 55, les Français en envoient 1000 et les Polonais en envoient 1000. Bon. Et évidemment, ça, c'est parfaitement perçu à Moscou. C'est-à-dire qu'il y a une forme de désengagement très net qui, à mon avis, contribue à expliquer le comportement de la Russie. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une notion qui n'apparaît pas dans notre discussion jusqu'à présent, mais qui, à mon sens, est centrale pour la relation transatlantique. C'est ce qu'on appelle le P3, c'est-à-dire ces relations très étroites qui existent en matière de sécurité et de partage d'informations entre Washington, Londres et Paris. Et au fond, c'est là...
Mais avec souvent des divisions, et notamment, on les a vues lors des précédents sommets de l'OTAN.
Oui et non, c'est-à-dire qu'en même temps, la réaction à Paris sur l'affaire de la NSA est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus prudente qu'à Berlin, précisément.
Mais on est peut-être un peu plus cynique en ce qui concerne les écoutes des uns et des autres.
C'est un élément d'explication, mais c'est aussi, je crois, le reflet, si vous voulez, d'une étroitesse des relations entre Paris et Washington avec le retour plein et entier de la France dans l'OTAN depuis 2009, qui en est un peu, si vous voulez, l'illustration. Ce que je voulais dire, c'est que 2011, c'est à la fois l'abstention de l'Allemagne sur la Libye, et ça, c'est effectivement un point très important. C'est la formule d'Obama « leading from the behind », c'est-à-dire de laisser Français, Britanniques et Norvégiens faire l'essentiel des frappes, mais leur fournissant l'intelligence. Et d'ailleurs, dans l'entretien pour The Atlantic, Obama ne manque pas de rappeler que les défenses antiaériennes libyennes ont été détruites par les États-Unis. Et puis ensuite, on a la Syrie, où à nouveau, c'est le P3 qui doit agir. Et Enrico Letta l'a rappelé, c'est-à-dire que la grande surprise, c'est la décision de Londres. Mais au départ, ça devait être là aussi une opération P3 avec une très forte réticence allemande et italienne. Et pour les Français, 2013, c'est aussi le Mali. Et au fond, vous avez quelque chose qui se joue entre Paris et Washington qui me semble très important. C'est une sorte de sous-traitance avec l'opération Barkhane, c'est-à-dire nous luttons conjointement contre le djihadisme, pour faire simple. Vous, Français, vous occupez de Barkhane et de l'aspect bande sahélienne. Et nous sommes très impliqués en Irak. Nous restons très impliqués en Irak. Et puis le trou noir, c'est évidemment la Syrie et la Libye. Donc le bilan, si vous voulez, est beaucoup plus compliqué en termes de sécurité, parce que je pense que Barack Obama laisse en réalité une OTAN qui a perdu un peu sa boussole et qui est en train de se réinventer la menace russe pour resserrer les rangs.
Une menace russe, Enrico Letta, qui est néanmoins réelle ou qui est perçue comme telle par tous les membres de l'Union européenne qui sont à l'Est, tous les membres de l'ancien bloc communiste. Et c'est là aussi cette fracture-là, correspondant à cette perception différente d'une menace, c'est précisément aussi la fracture que l'on constate en Europe, s'agissant en particulier des réfugiés.
Oui, on a vécu depuis 2 ans un nouveau clivage en Europe qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire le clivage Est-Ouest. On a appris tout d'un coup qu'on n'a pas la même perception des choses, soit sur les grands enjeux de politique étrangère à l'Est, soit sur la question des migrants. Et tout ça a créé une situation dans laquelle peut-être on a compris qu'on a été un peu trop rapide et peut-être dans l'élargissement, on n'avait pas très éclairci quelques-uns des aspects essentiels. Les attitudes de gens comme Orban, Fico, Kaczynski sont des attitudes qui sont, de mon point de vue, incompatibles.
Un élargissement, il faut le rappeler, auquel Washington a toujours été favorable, à tel point d'ailleurs que les néoconservateurs en particulier, mais beaucoup de gens à Washington, voulaient que la Turquie entre dans l'Union européenne.
Oui, ça a été toujours la doctrine américaine, mais là, ce clivage est un clivage bien lourd et bien difficile à gérer, parce que naturellement, aujourd'hui, on se rend compte de ce que ça veut dire, et ce sont des sujets sur lesquels il faut que, c'est de mon point de vue, une des autres raisons qui pousse à dire il faut que les pays de l'euro, donc les pays du noyau dur européen, des fondateurs, fassent des pas en avant en termes d'intégration, une intégration à deux cercles, un cercle les pays de l'euro, les pays fondateurs, avec une Europe donc qui partage plus des valeurs et qui soit en condition donc de gérer en termes de politique étrangère d'une façon plus étroite.
Karen Donfried, on arrive pratiquement à la conclusion de cette émission. Vu de Washington, vous qui avez depuis longtemps travaillé dans cette dimension transatlantique entre les États-Unis et l'Europe, est-ce que vous diriez qu'au fond les Européens se plaignent toujours, soit parce qu'ils estiment que les Américains en font trop, soit parce qu'ils estiment que les Américains n'en font pas assez?
C'est vrai qu'il est très facile de critiquer la politique américaine, quelle qu'elle soit. Mais si on réfléchit au modèle de la politique étrangère américaine, Vous savez, avec sous George Bush, vous avez vu le pendule passer d'un côté à l'autre, du côté de l'intervention américaine. Véritablement, sous Barack Obama, ça a été beaucoup plus dans le recul. Et de mon point de vue, quel que soit le prochain président américain, ce pendule reviendra vers le milieu, vers le centre. Et on verra probablement des expressions plus claires de la politique sécuritaire américaine. Il y aura plein de raisons pour que les Européens critiquent ou applaudissent à l'avenir également.
Thomas Gomard, on a assisté sous les années Bush à cette doctrine quasi messianique du rôle des États-Unis, le pays choisi par Dieu non seulement pour conduire le monde mais pour l'améliorer. Cette doctrine de l'exceptionnalisme américain. On a l'impression que Barack Obama, depuis 7 ans, au-delà du tournant politique, Barack Obama a en quelque sorte mis un terme à cette dimension-là de la culture politique américaine.
Je ne sais pas s'il a mis un terme. Je pense qu'il a, en revanche, très clairement compris les dommages causés par les années Bush. Au fond, pour moi, le double mandat de Barack Obama, c'est une manière de corriger l'interventionnisme des années Bush. Et effectivement, avec une posture peut-être dans le discours moins dominatrice, il laissera des grands discours, comme celui du Caire, il laissera une attitude. Et donc, si vous voulez, je pense que c'est un héritage très, très composite qu'il laisse, parce qu'en même temps, il est moins interventionniste que Bush, mais il a fait la guerre avec d'une autre manière. Hein. On a mentionné rapidement l'usage des drones. C'est quelqu'un qui a sans cesse utilisé les drones, qui a conduit une lutte par ce biais-là. Donc c'est un héritage, je dirais, oui, composite. Mais pour moi, ça reste quand même un héritage qui considère que les États-Unis doivent jouer un rôle de tout premier plan et conserver leur primauté, pour utiliser le terme consacré.
Et on voit d'ailleurs dans la campagne actuelle, aussi bien côté démocrate avec Hillary Clinton, dont on dit volontiers qu'elle est plus néo-conservatrice en matière de politique étrangère que Barack Obama. Elle continue notamment de défendre sa propre action en ce qui concerne la Libye. On voit que les enjeux de politique étrangère dans cette campagne sont plus importants que d'habitude.
Oui, c'est vrai que Obama se définit comme un réaliste. Et je pense que ce qu'il a apporté, c'est de dire l'usage de la force de manière systématique et dommageable. Et en même temps, il s'est probablement appuyé davantage que Bush sur ses alliés, avec des réussites comme l'accord sur l'Iran, comme l'accord sur le Cuba, et puis des échecs, la Russie et très probablement aussi la Syrie.
Enrico Letta, diriez-vous que Barack Obama a imprimé une rupture dans la tradition de la politique étrangère américaine, qu'elle ait été démocrate ou républicaine d'ailleurs, et qu'encore une fois, cette notion du rôle singulier de l'Amérique, cette mission singulière, il n'a pas entretenu cette idée-là?
Je pense que ça a été quelqu'un qui a transformé et fait évoluer la politique américaine d'une façon moins unilatérale. C'est quelque chose qu'on a tous très apprécié. Il a géré, par exemple, le G20, qui a été une des nouveautés des dernières années, aujourd'hui un peu en difficulté après les dernières éditions, mais le G20 est un lieu important. C'est une évolution. Ce qu'on réussit pas faire aux Nations Unies, parce qu'on n'a pas pu réformer les Nations Unies, le G20, c'est le lieu où 20 personnes qui représentent le 85% de l'économie du monde se prennent sur les épaules des responsabilités. Maintenant, on a le G20 géré par la Chine cette année 2016. C'est la dernière occasion pour le faire remonter en puissance, et je pense que ce serait bien. Je dis ça pour dire que si on peut appliquer des catégories typiquement européennes, il a été moins unilatéral et plus multilatéral. Et c'est pour ça qu'à la fin de tout ça, moi, je donne un jugement qui est positif, surtout parce qu'il avait l'héritage des 8 années de Bush. Et c'était un héritage très dur. Les Américains avaient divisé le monde. Ils n'étaient pas les bienvenus dans beaucoup de parties du monde. Aujourd'hui, la situation est sûrement une situation différente. Dans un monde multipolaire dans lequel il n'est plus possible de gérer le rôle de seul Guardians of the Galaxy, et qui a été un peu le rôle de Bush.
Mais en même temps, on voit que dans cette campagne électorale, il y a une sorte de surenchère des deux côtés pour réaffirmer le rôle des États-Unis auprès d'une opinion publique qui se plaint volontiers, mais surtout l'électorat de Trump, d'un affaiblissement de l'Amérique.
Oui, ça c'est assez. Je trouve ça assez amusant, parce que si on applique ces mêmes critères et on change le nom du pays, c'est un peu la même chose qu'on entend en France, en Italie et dans tous les autres pays qu'on connaît. C'est-à-dire, il y a dans tous les pays, je pense, la situation est la même. On est tous épouvantés par les changements de la globalisation qui ont touché les sociétés, les populations, et on a tous envie de retourner au bon vieux temps. Le bon vieux temps n'existe plus.
On serait d'ailleurs fort en mal de le définir.
Oui, parce qu'il y a la Chine, parce qu'il y a l'Inde, parce que le monde a changé. Donc, il faut regarder au futur, il faut entrer dans le futur. Ce que cette campagne électorale américaine ne donne pas vraiment l'impression de vouloir faire.
Merci, merci à tous. Merci à vous, Enrico Letta, ancien Premier ministre d'Italie, doyen maintenant de l'École des Affaires internationales de Sciences Po à Paris. Merci à Karen Donfried. Merci mille fois d'avoir été avec nous tout au long de cette émission par téléphone depuis Washington. Vous présidez le German Marshall Fund des États-Unis. Merci à Mark Leonard, qui était avec nous de Londres et qui dirige le European Council on Foreign Relations. Merci bien sûr à Thomas Gomard, qui dirige l'Institut français des relations internationales. Et merci à Michel Zotowski, qui avec son brio habituel, nous a traduit les propos de Karen Donfried. À la réalisation ce matin, Véronique Villa, à la technique, Julie Garraud, à la préparation, comme chaque semaine, Meryl Moneghetti. Et comme chaque samedi aussi, vous avez maintenant rendez-vous avec Dominique Rousset pour l'économie en question. Très bon week-end !